Je suis avec Pierre Kasounoguès. Nous parlons des rêves cybernétiques de Norbert Wiener. Bonjour Pierre Kasounoguès.
Bonjour.
Ce livre n'est pas un essai sur Norbert Wiener, ni tout à fait un essai sur la cybernétique. Votre titre est très clair. Il faut le prendre exactement pour ce qu'il dit, les rêves cybernétiques de Norbert Wiener.
Oui, effectivement, le livre porte sur une nouvelle de Norbert Wiener, une nouvelle inédite que j'ai trouvée dans les archives de Norbert Wiener au MIT à Boston. Et donc il s'agit en fait pas vraiment de la cybernétique, mais donc d'une fiction que la cybernétique a produite, et pas non plus tout à fait de Norbert Wiener, parce que la nouvelle est signée de ce pseudonyme transparent qui est W. Norbert.
Pourquoi avoir utilisé le terme de fiction Pourquoi ne pas avoir utilisé plutôt le terme de fiction à la place du mot rêve Vous aurez pu avoir ce titre, Les fictions cybernétiques de Norbert Wiener, mais vous avez utilisé le mot rêve. Pourquoi?
Parce que il y a cette fiction, qui est une fiction, une nouvelle en fait, qui est donc un texte écrit. Et puis la cybernétique véhicule aussi toutes sortes d'images qui transparaissent dans les textes, mais ne sont pas forcément présentées en tant que fiction, et qui se prêtent aussi à une interprétation, ou disons une sorte d'analyse, un peu comme les rêves.
Alors, ce Norbert Wiener... Est-ce qu'il a écrit beaucoup de fiction? Vous avez découvert cette fiction qui était inédite, que vous avez traduit vous-même. Est-ce qu'il avait écrit beaucoup de fiction? Il envoyait notamment des scénarios à Hitchcock et Orson Welles, vous avez écrit dedans.
Oui, alors, bon, pour présenter un peu, Norbert Wiener est d'abord un mathématicien. Il a été un mathématicien appliqué jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ses premiers résultats datent de 1919, si je me souviens bien. Donc jusqu'en 1943, disons, c'est un mathématicien appliqué. Et puis à partir de 1943, il invente cette discipline étrange qu'est la cybernétique. Et donc il écrit un premier livre, La cybernétique, qui est d'ailleurs traduit en français pour la première fois. Et le livre paraît en France, chez Hermann. Et le livre connaît, dans cette immédiate après-guerre, après la bombe atomique, et des savants qui se voient maîtres d'un pouvoir considérable. Ce livre connaît un succès important, et à partir de là, Wiener va écrire beaucoup, va quitter en fait les mathématiques et la science, disons, dure, pour se livrer à toutes sortes d'expériences de pensée. Un discours donc au statut indéterminé entre la fiction, la science et la philosophie. Ce qu'est la cybernétique, hein. Donc un deuxième livre, un deuxième essai, c'est L'usage humain des êtres humains, en anglais The Human Use of Human Beings, qui reparaît du reste en poche sous le titre Cybernétique et Société, et qui donc développe le thème cybernétique esquissé d'une façon plus... dur, plus scientifique, dans le premier essai cybernétique. Donc Wiener va se livrer va donner de multiples conférences autour de la cybernétique, mais parallèlement, après la Deuxième Guerre mondiale, il va aussi produire une œuvre proprement littéraire avec une autobiographie en 2 tomes, ce qui est pas mal pour quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, hein, 2 tomes d'autobiographie, bon, qui n'est pas vraiment une fiction, mais une œuvre littéraire. Et en plus de cette autobiographie, il écrit aussi des fictions à proprement parler, un roman qui s'appelle The Tempter, le Tentateur, et plusieurs nouvelles, 5 nouvelles, dont 2 seront publiées, les autres restent inédites. Et donc ces nouvelles, publiées ou non, il veut en faire des films, et il les envoie effectivement à de grands réalisateurs. Il les envoie à Hitchcock, il les envoie à Houston. Finalement, aucun ne prend la nouvelle. Mais donc ce sont des nouvelles tout à fait intéressantes et qui ont un élément autobiographique très fort.
Et pourquoi prêtez-vous autant d'importance à ce texte fictionnel, donc qui est à la fin de votre livre, Pierre Cassonogès, qui s'appelle Un savant réapparaît? Pourquoi vous lui accordez voilà, cette importance-là quand vous l'avez découvert dans ses archives? C'est quoi l'intérêt que vous avez porté à ce texte tout de suite?
Bon, le scénario est assez énigmatique. Donc, on a un savant qui a disparu et on a par ailleurs un groupe de savants après une conférence qui se retrouve en Israël et qui regarde. Et puis, ils découvrent une formule sur la table, une formule géniale qui a été écrite sur la table. Ils se demandent par qui elle a été écrite. Ils retrouvent le nom d'abord de ce savant qui l'a écrite, d'après des sortes de marques que le savant aurait laissé autour de la formule, et c'est dire déjà que la science trahit les savants, que la science n'est pas impersonnelle, que les savants laissent leurs empreintes dans la formule. Donc à partir de cette formule, nos savants en goguette retrouvent leur collègue qui a disparu, et finalement ils le retrouvent en chair et en os, et l'un d'eux l'assassine immédiatement. Et donc on a ce savant qui réapparaît pour redisparaître immédiatement, un peu à la façon d'un spectre. Et cette mise en scène était un peu intrigante. Puis en l'étudiant mieux, on voit que ce savant disparu, eh bien, ces dilemmes, ce savant disparu et réapparu et redisparu, ces dilemmes sont exactement ceux de Wiener. Et on a l'impression que c'est Wiener lui-même qui, comme un spectre, revient pour reposer ces dilemmes et avec d'une autre perspective, mais que dans cette nouvelle, il y a un élément autobiographique et un élément de doute quant à son œuvre important.
Parce que cet élément-là, c'est l'usage de la science par les militaires. Norbert Wiener a été profondément touché par la bombe, enfin par l'usage de la bombe atomique. Et c'est à partir de là qu'est écrite cette nouvelle, mais c'est aussi à partir de là qu'il y a toute une réflexion sur l'usage scientifique par les militaires ou par la société qui va être utilisée aussi pour penser la cybernétique.
Oui, alors Wiener et la bombe, donc Wiener n'a pas participé directement à la bombe atomique, donc qui a été fait comme qui a été conçu et fabriqué, comme on sait, aux États-Unis, à Los Alamos, dans les dernières années de la guerre, et non, première bombe donc à Hiroshima et Nagasaki en août 45. Donc Wiener n'a pas vraiment participé à la conception de la bombe, mais certains de ses résultats ont été utilisés. Et il était aussi très proche de von Neumann, qui lui a vraiment participé à la construction et à la fabrication de la bombe. Et lorsque la bombe explose, en fait, au moment où la bombe explose, en août, Wiener est en vacances et il y a des lettres de cette époque, il ne semble pas exprimer d'inquiétude particulière. Mais à la rentrée, le mois d'octobre, Wiener pense à quitter la science, il veut disparaître et il écrit toute une série de textes où il affirme que le savant ne peut plus rester savant dans la mesure où ses résultats peuvent être, même malgré lui, utilisés pour commettre ce qui est d'une façon ou d'une autre un meurtre de masse. Et que Wiener ne critique pas d'une façon tout à fait ouverte, mais est aussi très très loin de valider ou d'accepter. Donc il y a ce dilemme de Wiener, comment rester savant? Et en fait, la solution que se trouve Wiener pour rester savant, c'est d'imaginer un autre danger. Un autre danger qui serait peut-être pire que celui de la bombe, c'est celui de la machine automatique, de l'ordinateur ou de ce que Wiener appelle l'usine automatique, c'est-à-dire une usine qui travaillerait toute seule, qui n'aurait donc plus besoin d'ouvriers, qui n'aurait plus besoin d'aucun travailleur, pas même de col blanc, puisque l'ordinateur ferait aussi le travail du comptable. Et cette usine automatique, aux yeux de Wiener, représente un danger au moins aussi grand que celui de la bombe, parce qu'il rendra le travailleur inutile et nous ne pouvons nous concevoir que comme des travailleurs divineur. Et donc, eh bien, c'est l'humain qui serait obsolète. Et c'est l'humain qui finalement serait amené à sa fin, par cette usine automatique. Mais sur ce plan de la machine, eh bien, l'importance de la science est encore irrésolue. Parce que cette machine automatique, cette usine automatique, ce pourrait être aussi une libération de l'humain par rapport au travail qui livrerait l'humain à toutes sortes de loisirs. Donc, le rôle, l'importance, la fonction de la science sur ce plan de l'usine automatique est encore indéterminée. Et la science peut tourner au bien comme elle peut tourner au mal. Et ça, c'est une justification pour le savant. Le savant peut encore travailler sur le plan de la machine pour l'amener du bon côté. Et puis, 10 ans après, en 1954, eh bien, dans cette nouvelle, le doute revient sur cet autre plan. Qu'est-ce que la science, la cybernétique, Wiener lui-même, a fait de cette usine automatique ? Et la question de Wiener, c'est la question donc de ce savant qui disparaît, réapparaît, redisparaît. Est-ce qu'il n'aurait pas dû disparaître ?
Et c'est pour ça qu'il le fait assassiner.
Et alors pourquoi le fait-il assassiner, ce savant qui a disparu ? Il y a différentes interprétations. La nouvelle est ambiguë. Les dilemmes de Wiener s'exposent à plusieurs niveaux. Et Wiener lui-même ne donne pas de solution. Est-ce qu'il le fait assassiner pour dire que, en fait, s'il avait disparu lui-même, s'il avait, comme il l'envisageait en 1945, s'il avait quitté la science pour se réfugier, non pas comme son personnage dans un kibboutz en Israël, mais dans sa ferme du New Hampshire, eh bien, d'autres savants seraient venus finalement pour lui faire la peau. Est-ce que c'est cette impossibilité de fuir que signifie la redisparition du savant, ou bien est-ce que c'est que finalement il est le bon savant, celui qui était totalement intègre, a tout à fait disparu et ne reviendra plus? Voilà, c'est une question que pose Wiener. Et ce qui m'intéressait dans cette nouvelle, c'était la façon dont se trouvait formulée la question de la machine. Est-ce que la machine est une bonne chose ou une mauvaise chose? La question de la machine se trouvait formulée comme un autre de la bombe. C'est-à-dire, et on trouve ensuite toute une série d'occurrences chez des auteurs aussi différents que l'auteur de science-fiction Arthur C. Clarke ou le psychanalyste Jacques Lacan, cette même idée que la machine, c'est l'autre de la bombe, un nouvel élément scientifique sur lequel la question de la bombe, est-ce que la science est un bien, est-ce que la science est un mal, est-ce que la science c'est la fin de l'humain ou sa libération, cette question se trouve posée à nouveau frais.
Et cette question a dû être aussi posée pour Norbert Wiener, avec son amitié avec John von Neumann. Parce que John von Neumann est quand même très impliqué dans ces histoires de bombes, dans ces histoires aussi de défense atomique contre l'URSS. Or, ils ont été assez profondément amis tous les deux, jusqu'à une brouille, John von Neumann représentant Princeton et Norbert Wiener représentant le mythe MIT, la tension qui pouvait y avoir entre ces deux pôles universitaires, ces deux pôles de recherche. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette relation que Norbert Wiener avait avec John von Neumann, alors qu'il y avait tous les ingrédients pour qu'il déteste John von Neumann, qu'il en fasse même un repoussoir absolu?
Oui, alors c'est une relation et une amitié très étrange entre les deux savants qui, par bien des aspects, sont d'abord très proches, sensiblement de la même génération. Ils sont juifs tous les deux et c'est pour eux deux tout à fait important. Mais Norbert Wiener est un juif américain qui naît aux États-Unis. Von Neumann vient d'une famille hongroise et lui émigre aux États-Unis et il gardera cette culture d'Europe centrale. Il continuera avec son grand ami Stanislav Ulam à se faire des blagues en yiddish tard aux États-Unis. Ce sont deux savants de première importance qui vont prendre des positions politiques opposées. Donc Wiener va être plutôt critique de la bombe, au moins critique de la participation de la science, ou de la collaboration, si vous voulez, de la science avec l'armée. Et von Neumann va au contraire participer donc à la conception et la fabrication de la bombe, et ensuite va défendre une politique très guerrière, hein, puisqu'il est partisan de ce qu'on a appelé la First Strike Strategy, qui était de bombarder avec les bombes atomiques l'URSS avant qu'elle n'ait elle-même le temps de construire une bombe atomique. Donc deux personnages assez proches qui finissent par s'opposer et en même temps qui restent donc amis jusque après la guerre. Justement, on parlait donc de ce mois d'août 1945 lorsque Wiener est en vacances dans sa ferme du New Hampshire. Qui reçoit-il dans sa ferme ? Il reçoit von Neumann, et il raconte dans une lettre que von Neumann se promène sur les tracteurs avec ses filles et dans une sorte de cordialité. C'est tout à fait étrange. Bon, il y a aussi un autre aspect de cette opposition. Hein. Wiener est quelqu'un d'extrêmement susceptible, qui pique des colères, se dispute avec beaucoup de monde. Au contraire, von Neumann est quelqu'un de très policé et qui a tout un réseau. Donc, deux personnalités opposées. Voilà, deux personnalités que tout oppose, y compris leur position politique, qui sont tous les deux très fermes et assez entiers dans leur position politique, aussi bien Norbert Wiener qui... au moment du McCarthyisme, au début des années 50, ne va pas céder et va rester donc en marge au moins de la science militarisée. Von Neumann, donc, on a parlé de cette First Strike Strategy, il va finir aussi par avoir un poste politique à Washington. Deux personnages aussi qui s'opposent même dans leur conception du travail mathématique pour prendre un exemple, l'un et l'autre parlent du rôle de l'inconscient en mathématiques. Et donc Wiener raconte dans toute une série de textes que beaucoup de ses idées mathématiques lui viennent en rêve, et que en fait dans le rêve les idées sont représentées par certains symboles, et ces symboles prennent certaines relations dans le rêve, et ce sont donc des relations entre les idées mathématiques. Et donc il y a vraiment un travail mathématique du rêve. Et von Neumann, lui, explique aussi qu'il fait des démonstrations en rêve, mais donc il se réveille et il a, dans le désordre, raconte-t-il, les différentes étapes de la démonstration. Et donc il écrit. Donc tous les deux parlent de l'inconscient mathématique, mais d'une façon différente. Avec Wiener, on a vraiment le travail du rêve. Avec von Neumann, on a l'impression que l'inconscient de von Neumann est une sorte de machine sur laquelle von Neumann serait assis et qui lui fournirait comme ça les résultats, ou un interlocuteur au téléphone qui donnerait des phrases, mais la communication étant mauvaise, il les répète et les phrases arrivent à von Neumann dans le désordre. Donc deux personnages qu'on a déjà rapprochés et opposés de cette façon, mais deux personnages dont l'amitié est effectivement tout à fait énigmatique.
Et en plus, enfin, Norbert Wiener, vous écrivez, il a fait trois psychanalyses.
Oui, il en a fait plusieurs. Bon, après, donc, que c'était des... À quelle mesure c'est des psychanalyses où il allait voir un psychologue, mais effectivement, il était en contact avec plusieurs psychanalystes. Son autobiographie, par exemple, il l'a fait relire par son psychanalyste. Voilà, il y a une espèce d'opposition entre le psychanalyste et l'éditeur. Le psychanalyste lui suggérant d'enlever certains passages, l'éditeur voulant les garder. Bon, effectivement, voilà. Bon, je pense que Wiener avait aussi a eu une enfance assez difficile, hein, puisque Wiener était un enfant prodige qui a été assez peu à l'école et qui a été éduqué par son père. Et Wiener raconte donc comment son père devenait pendant les leçons une sorte de terreur qui l'insultait. Donc Wiener a passé son bac à l'équivalent du bac à 11 ans. Il a obtenu sa licence de l'université à 14 ans. Il a fait sa thèse, il avait fini sa thèse à 18 ans. Donc très 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 précoce. Et le père raconte dans des articles que en fait Wiener est un enfant, le Norbert est un enfant tout à fait banal, et que c'est son enseignement qui explique cette précocité de Wiener. Bon, on comprend que ce soit difficile à supporter pour Wiener. Et puis, aussi dans une difficulté à laquelle Wiener va être confronté, c'est ce qu'il voit comme une singularité, la singularité d'être un savant juif américain. Et ça, c'est quelque chose de très important pour Wiener, que il se voit comme juif alors qu'il est américain. Et donc, dans les années 20, il y avait aux États-Unis des quotas dans les universités qui limitaient donc le nombre d'étudiants juifs. Donc, Wiener réussit, par son père en partie, et puis sa grande intelligence, à passer dans ces quotas. Mais du coup, il y a relativement peu de savants juifs américains à cette époque. Et donc, à la fois, il se sent comme juif, et en particulier, il se sent comme juif devant... l'émergence, au moment de l'émergence du nazisme en Allemagne et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, il ne partage pas du tout la culture des savants juifs émigrés comme von Neumann, et il se sent isolé par rapport à eux. Et on peut imaginer, typiquement, von Neumann et son ami Stanislav Ulam qui se font des blagues en yiddish, c'est plus ou moins leur langue maternelle, et Wiener ne comprend rien. Et il y a ce sentiment de Wiener d'être juif quand il fait face à l'université américaine, et d'être juif quand le nazisme émerge en Allemagne et qu'il ne peut plus aller en Allemagne, qui était un pays où il a passé plusieurs années avant. Et en même temps, d'être aussi isolé par rapport aux savants émigrés. Et c'est effectivement à ce moment-là, à la fin des années 30, que Wiener commence à voir des psychologues. Et certainement, cette situation est un ingrédient, un contexte important dans les difficultés que va éprouver Wiener.
Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, il ne faisait pas partie du projet Manhattan, Norbert Wiener. Néanmoins, il a travaillé pour l'armée. Et c'est le travail de Norbert Wiener pendant la guerre sur un canon anti-aérien. Et c'est là où va débuter cette idée de cybernétique.
Oui, en fait, ce que met en place Wiener pendant son travail pour l'armée à propos d'un canon anti-aérien, c'est l'idée de rétroaction. Alors, qu'est-ce que la rétroaction ? Eh bien, la rétroaction, c'est le fait pour une machine de corriger ses actions à partir de leurs résultats. Donc, le canon tire trop à droite, il s'agirait de faire en sorte qu'il ait la possibilité lui-même de revenir sur la gauche. De la même façon que si... j'essaye de prendre mon verre les yeux fermés, je pose ma main à trop à droite, vous me le dites, je vais la déplacer vers la gauche. Et l'idée de Wiener avec Rosenbluth, c'est que cette rétroaction donne à la machine un comportement téléologique, un comportement qui est orienté vers un but comme celui d'un vivant. Et c'est donc un premier concept qui s'appliquerait de la même façon. Cette rétroaction, ce comportement théologique, s'appliquerait de la même façon à la machine, au vivant et à l'humain. Et c'est là, effectivement, le point de départ de la cybernétique, cette idée d'avoir des concepts uniformes ou une théorie uniforme pour les machines, les vivants et les êtres humains. Ça n'est pas exactement dire que les vivants ou les humains sont des machines. C'est de dire qu'ils peuvent être que les uns et les autres peuvent être traités indifféremment dans la même théorie.
Et alors, comment la cybernétique a été continuée par le courant transhumaniste ? Je pense à Marvin Minsky, par exemple, ou à Rakersveil.
Alors, d'abord, ces auteurs se réclament de la cybernétique. Il y a tout un ensemble d'idées qui se développent de façon continue de l'un à l'autre, en passant peut-être par l'intelligence artificielle. Et puis, il y a certaines fictions, ou on pourrait dire certains mythes, que Wiener met en place et qui vont faire le cœur du post-humanisme. L'un de ces fictions, ou de ces mythes même, c'est l'idée que l'on peut abstraire un être humain de son corps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la subjectivité, l'esprit, la personne, ce qui fait l'identité de l'être humain, c'est en fait un certain code que l'on peut extraire de la personne, du corps humain, et que l'on peut reproduire sur un autre support, que l'on peut reproduire sur une machine, que l'on peut coder et envoyer par télégraphe pour le télétransporter. Et donc, dans cette idée d'une abstraction de la personne, pouvoir coder ce qui fait l'identité personnelle et pour ce code pouvoir ou bien le transmettre comme un signal ou bien le réimplémenter sur un autre support. Cette idée va à la fois donner lieu à des images de science-fiction comme le télétransporteur de Star Trek, hein, cette machine, cette sorte de cabine téléphonique qui vous envoie n'importe où dans l'univers à la vitesse de la lumière, hein, c'est-à-dire votre identité est extraite, codée et par un signal lumineux transporté ailleurs, mais c'est aussi la possibilité de l'immortalité finalement, c'est la possibilité eh bien, de pouvoir se survivre sous la forme d'un programme informatique. Et cette idée, donc, elle fait le cœur et le principal ingrédient, on peut dire, du post-humanisme d'un Minsky ou Uri Kurzweil. Et ça, c'est une idée, c'est une idée que met en place d'abord Wiener hein, dans Cybernétique et Société. Il y a un passage de fiction, vraiment, où Wiener donc, imagine un architecte qui voudrait se transporter de l'Europe aux États-Unis. Wiener discute de plusieurs modalités et il imagine finalement hein, donc une machine qui, en fait, scannerait l'architecte, réussirait à en extraire le code, transporterait ce code par télégraphe, hein, les vieux télégraphes qui font tic-tac, et réincarnerait notre architecte de l'autre côté de l'Atlantique. Et cette image, donc, elle va trouver un écho dans la science-fiction immédiat, avec un roman de Arthur C. Clarke ou des nouvelles de Frédéric Pohl. Et puis, elle va donc se retrouver aussi dans les années 1990-2000 dans le courant post-humaniste.
Et c'est là où on s'aperçoit du grand lien de la cybernétique avec la fiction et avec la science-fiction.
Oui, Wiener est en contact avec des auteurs de science-fiction. Ses idées trouvent un écho immédiat dans la science-fiction. Et lui-même, donc, dans ce chapitre de l'usage humain des êtres humains, donc cybernétique et société, lui-même dit qu'il fait une incursion dans la science-fiction. Donc il a bien conscience du caractère très ambigu de son discours hein, qui oscille, enfin, ou qui utilise au moins à la fois des ingrédients de la science, incontestablement, il est question d'ordinateurs et qui sont des objets scientifiques, de la philosophie, en ce qui concerne la théorie de l'identité de la personne, et de la fiction. Wiener commence par s'appuyer par d'une nouvelle de Kipling, donc un discours où se lient ces trois ingrédients. Cette fiction de Wiener, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas exactement une nouvelle. Il n'y a pas de chute, par exemple, ou pas d'aventure, véritablement, de cet architecte. Mais ça n'est pas seulement une expérience de pensée. C'est un discours, donc, on pourrait dire, cybernétique.
Monsieur, vous parlez très bien que Wiener a conscience du fait aussi que la cybernétique risque de tomber parfois dans la science-fiction.
Oui, alors, voilà, évidemment, il a peur, il a une position très ambiguë par rapport à la science-fiction, puisque à la fois il l'utilise, il avoue faire parfois de la science-fiction, il l'utilise aussi, par exemple, sur la couverture de son essai Cybernétique et Société, il y a une bulle, un savant. Un savant discute des relations de l'homme avec son compagnon de demain, le robot. Bon, c'est des références évidentes à la science-fiction. Dans des interviews, il y a aussi des références à la science-fiction. Et en même temps, il a peur que la cybernétique soit considérée comme une science-fiction parmi d'autres. Et donc, il veut là distinguer le discours cybernétique de la science-fiction. Il y a différents textes, différents moyens par lesquels il essaie de le faire. Un bon exemple de ça, c'est le roman de Von Goethe, Piano Player. Le roman, donc, présente un univers qui est très inspiré par Wiener et par l'usine automatique. Ce que met en scène Von Goethe, c'est vraiment ce que dit Wiener de l'usine automatique, des usines qui travaillent toutes seules, plus de travail, des humains qui se sentent inutiles, qui sont divisés en deux classes absolument, absolument étanches. Wiener est cité avec éloge, et pourtant Wiener reçoit le roman et il ne l'aime pas du tout. Et il écrit une lettre très très désagréable à l'éditeur et à l'auteur. Et en fait, qu'est-ce qu'il n'aime pas ? Ce qu'il n'aime pas, c'est que ses idées soient reprises dans une atmosphère explicitement imaginaire. Et comme si, donc, ces idées n'avaient plus de réalité, comme si ces idées, dans le registre explicite de la science-fiction, perdaient de leur réalité. Et oui, on pourrait dire ce que veut faire Wiener, c'est une science-fiction qui ne s'avoue pas, une science-fiction qui reste implicite, et dès qu'elle s'explicite comme telle, dès qu'elle s'avoue, eh bien, elle n'a plus cette portée que la cybernétique doit avoir pour Wiener, qui est toujours, on l'a dit au début, de rejouer ce dilemme de la bombe, ce dilemme qui s'est d'abord posé à propos de la bombe, de le rejouer à propos de la machine, cet objet scientifique, est-ce un bien, est-ce un mal?
Oui, parce que la fiction et la science-fiction permet aussi à Norbert Wiener de se confronter à des scénarios catastrophes sur l'usage de la science et de les envisager, justement, et de les anticiper. La fiction permet cela, et Norbert Wiener en fait usage.
Oui, alors en ce qui concerne les scénarios de catastrophe, Wiener a une imagination sans borne. Hein. Il en imagine donc, il y a l'usine automatique, il y a la bombe, il imagine des virus qui se propageraient dans un monde qui ne... dans un monde où il reste des frontières, mais où les frontières sont régulièrement traversées. Il imagine un empoisonnement des eaux, il imagine un passage très étrange où il imagine que notre cerveau, en fait, procéderait d'une mauvaise façon et ferait des raisonnements trop longs par rapport à l'ordinateur qui pourrait travailler en parallèle sur des raisonnements plus courts, et qu'en fait notre cerveau par rapport à l'ordinateur aurait emprunté dans l'évolution naturelle la mauvaise voie, c'est-à-dire une impasse, au lieu de penser à plusieurs choses à la fois et finalement de conclure en les regroupant, eh bien, nous ferions des raisonnements linéaires, une chose après l'autre, avec des chaînes de raisonnement trop longues qui risquent toujours de se briser. Et il compare donc notre cerveau à ces énormes cornes qui auraient poussé petit à petit sur le front des dinosaures pour toujours mieux les défendre et qui les auraient finalement empêchés de marcher et qui auraient donc amené leur disparition. Et de la même façon, eh bien, ces raisonnements trop longs seraient en fait notre fin par rapport à l'ordinateur. Donc effectivement, sur les scénarios catastrophes, l'imagination de Wiener ne connaît aucune borne.
Et il utilise la fiction.
Et pour ça, oui, il utilise la fiction, des sortes d'expériences de pensée ou des micro-récits, si l'on veut.
Et alors, cette cybernétique, elle n'est pas que d'ordre fictionnel. Qu'est-ce qu'elle a produit ?
Qu'est-ce qu'elle a produit concrètement ? Pas grand-chose, en fait, il faut dire. Bon, parallèlement à la cybernétique, les premiers ordinateurs se développent, mais ils se développent en particulier sous l'impulsion de von Neumann, mais sans utiliser vraiment des résultats qui viendraient de la cybernétique. Mais, bon, leur production est concomitante, mais elle n'est pas due à la cybernétique. Donc ensuite, cette idée de rétroaction... elle va être mise en place dans des prothèses, en particulier il y a le bras de Boston auquel Wiener collabore, mais dans quelle mesure est-ce que cette idée, est-ce que le discours cybernétique est vraiment nécessaire à l'idée de rétroaction? Dans quelle mesure les médecins qui font le bras de Boston ont besoin de Wiener philosophe, c'est peu évident. Ce n'est pas évident. Il est clair au moins que la cybernétique, ça n'est pas une théorie comme la physique atomique qui produit vraiment des artefacts.
Est-ce que la cybernétique, son rôle principal, ça a été de libérer le possible par la fiction? Est-ce que ça vous semble correct comme phrase?
Peut-être, oui, libérer une série de questions, de dilemmes à propos de la science et de la machine après la bombe.
Parce que ça rejoint aussi votre grande thèse, enfin votre grande problématique, qui est que la fiction détermine le possible. Et je me dis que c'est pour ça aussi que vous êtes intéressé à Norbert Wiener et à cette histoire de cybernétique.
Oui, alors, oui et non. Quand je dis que la fiction détermine le possible, c'est pour utiliser la fiction d'une façon spéculative et essayer d'imaginer des êtres ou des situations qui ne peuvent pas se produire dans la réalité et qui forment des variantes par rapport à la réalité et permettent alors de cerner ce qui ferait l'essence de la réalité, par exemple, d'une réalité. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un esprit ? Dans quelle situation pouvons-nous encore imaginer penser ? Est-ce que nous aurions besoin d'un corps ou de quel corps avons-nous besoin pour penser ? Est-ce que, voilà. Donc, quand je dis que la fiction détermine le possible, c'est dans une visée spéculative. Ce qui m'intéressait à propos de Wiener, c'était d'avoir un regard critique sur ces fictions et d'essayer de cerner justement quels étaient les attracteurs qui les déterminaient, quels étaient les pôles autour desquels elles circulaient, quelles étaient les questions qui s'y mettaient en place. Essayer en fait d'analyser l'imaginaire qui les sous-tendait. Donc, effectivement, il s'agit toujours d'un travail sur la fiction, mais avec un regard un peu différent de celui que j'ai pu avoir dans mon livre, par exemple, « Mon zombie et moi », où il s'agissait vraiment d'une sorte de construction spéculative dans la fiction. Là, avec Wiener, il s'agit plus d'essayer d'analyser nos fictions, d'opérer une sorte de critique de nos fictions, des fictions de Wiener, mais aussi des nôtres, parce que par bien des égards, on a parlé à propos du post-humanisme, les fictions de Wiener restent les nôtres, d'essayer de voir comment ces fictions, cette espèce d'idéologie imaginaire des savants, comment elles s'organisent.
Merci beaucoup, Pierre Kassounougas.
Merci à vous.